Donc pourquoi s'intéresser au positionnement de la France dans le classement PISA ? Donc tout le monde n'est pas forcément familier avec PISA, donc je vais dire deux mots. PISA, c'est un acronyme en anglais qui veut dire quelque chose du genre Programme international d'évaluation des élèves. Au départ, c'est un instrument de mesure et de comparaison élaboré par l'OCDE pour les pays de l'OCDE pour pouvoir faire une évaluation de l'efficacité de leur politique publique et leur système public d'éducation. Aujourd'hui, grand succès, cette mesure est adoptée par 70 pays ou régions dans le monde qu'on appelle partenaires et qui donc chaque année acceptent qu'on vienne regarder comment ça se passe chez eux. Et du coup, ça donne une vue très globale de ce qui se passe dans le monde et donc assez pertinente. Évidemment, il existe d'autres instruments de mesure pour regarder l'efficacité de l'école. Et notamment, chaque pays a ses propres instruments de mesure. Bon, néanmoins, nous sommes orientés vraiment vers l'international. Donc c'est important pour nous de regarder les questions dont on se saisit au regard de ce qui se fait ailleurs en Europe ou de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc il était particulièrement évident pour nous de retenir cette mesure comme étant une mesure sur laquelle on pouvait discuter. Alors, PISA, c'est un instrument légitime pour mesurer l'efficacité d'un système scolaire, d'une politique publique à former des jeunes autonomes. Et c'est ça l'affaire. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est ce sujet sociétal, former des jeunes adultes autonomes. Et c'est non seulement pas quelque chose qui nous occupe, mais c'est surtout quelque chose qui nous préoccupe. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'efficacité du système scolaire ? Notre sentiment, et il n'y a pas qu'à Semaine qu'à ce sentiment-là, hein, nous ne sommes pas détenteurs de cette alarme, notre sentiment, c'est que l'école aujourd'hui, c'est un problème de société de tout premier plan. Excusez-moi. Alors je vais lister trois raisons pour ça, et ce ne sont pas les seules trois raisons, mais c'est trois raisons que nous avons voulu retenir. La première, c'est que depuis plusieurs décennies, on est dans un monde où le chômage est structurel. Et du coup, le savoir et la qualification sont d'autant plus importants pour trouver sa place. Je crois que c'est dit partout dans les journaux, donc vous le savez. Plus de 140 000 jeunes sortent chaque année de l'école sans diplôme. Alors 140 000 jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose. Sauf que sur une classe d'âge de 870-880 000, ça fait un jeune sur six. Alors un jeune sur six sans diplôme, ça signifie quoi ? Ça signifie un citoyen sur six qui va avoir du mal à s'insérer dans le monde du travail, qui va avoir du mal à être autonome tout au long de sa vie, qui va avoir du mal à s'adapter dans une société qu'on voit de plus en plus complexe, de plus en plus technologique, qui va avoir du mal, et c'est plus prosaïque, mais c'est vrai, à contribuer à la richesse nationale ou, selon l'expression du moment, au redressement productif de la France. Par ses répercussions, cette situation, elle pèse sur toute la société. D'abord sur sa cohésion, sur son économie, sur sa fiscalité, sur sa politique, et on pourrait prendre tous les pans de la société pour les énumérer, aucun ne peut se dire à l'abri des effets de l'exclusion, on va dire, des décrochés, un enfant sur six décroché au cours de sa scolarité. Alors, on pourrait se dire, on laisse passer, puis on voit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre école, elle amplifie les inégalités sociales d'origine. Ce qui fait que ce problème n'a aucune chance de se résoudre sans que notre école change substantiellement et probablement profondément. La deuxième raison pour laquelle pour nous c'est un sujet sociétal de premier plan, c'est qu'il y a un décalage grandissant entre, d'une part, la façon dont les enfants apprennent quand ils sont hors de l'école, avec le numérique, avec la disponibilité de l'information un petit peu partout, et puis d'autre part, quand ils sont à l'école, avec la proposition actuelle de l'école, où le savoir il reste transmis selon un modèle hiérarchique, élitiste, du maître face à l'élève et du maître qui regarde ce que l'élève a mal fait. Et c'est un modèle qui, originellement, ben, il s'adressait à un petit nombre de gens qui étaient préparés à ça et familiers avec ce mode de fonctionnement et de transmission du savoir. Alors, je vais pas plagier parce que je vais les citer. Donc, je vais citer Nathalie Mons, Christian Forestier et tous les gens de Refondant l'école. Vous avez dit que la massification avait été réussie, la démocratisation n'avait pas été réussie. C'est exactement ce dont on parle là. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie discrimination et qu'elle n'est pas prête de s'effacer entre ceux qui sont préparés à l'école par leur milieu d'origine et ceux qui ne sont pas préparés à l'école et pour qui l'école, c'est parfois un espèce de lieu hors sol qui n'a pas beaucoup de lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Le troisième point, c'est tout simplement une chose évidente que vous avez tous vécu, que moi j'ai vécu depuis la réforme ABI, c'est-à-dire que le système scolaire, il a du mal à améliorer ses performances comme on le voudrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une exigence qui pèse sur l'école et que l'école n'arrive pas à remplir. Et c'est pas faute de bonnes intentions, c'est pas faute de réformes qui se sont succédées au gré des majorités, et ceci effectivement depuis la réforme ABI, enfin je ne vais pas faire une litanie de réformes, je les ai toutes connues. Et l'affaire, c'est qu'en plus, non seulement on n'y arrive pas, mais on dépense plus d'argent que certains pays qui sont comparables à nous. Donc en bref, la société attend beaucoup, beaucoup de son école, beaucoup de choses, et la société a le sentiment de ne pas les obtenir. Donc c'est ça qu'on va vouloir explorer avec vous ce soir. C'est comment est-ce qu'on peut augmenter la capacité de notre société et en premier lieu de son système éducatif à amener nos enfants à bon port. Donc ça va se... Je vais vous donner juste un aperçu du plan. Donc dans un tout premier temps, et vous les avez devant vous, Nathalie Mons, Christian Forestier et Jean-Michel Blanquer vont faire le point sur les enjeux de l'école de demain. Qu'est-ce qu'il faut enseigner ? Comment est-ce que l'école peut favoriser la cohésion, de la société, hein, plutôt que d'amplifier les inégalités comme aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut mettre en place avec efficacité les politiques publiques de l'éducation? Ça, c'est une question. Dans un deuxième temps, Michel Quéré va nous exposer les grands éléments d'analyse de performance de l'école. Et puis, avec François Taddeï et Hervé Glazel, donc François Taddeï n'est visiblement pas encore arrivé, et Hervé Glazel qui est déjà là, ils discuteront en quoi les neurosciences, en quoi les technologies de l'information et toutes les nouvelles connaissances qu'on a sur l'apprentissage peuvent améliorer cette performance attendue par la société. Dans le troisième plateau, on va avoir le plaisir, et ça c'est notre côté international, d'entendre à la fois Andreas Schleicher, qui donc est responsable de PISA, mais surtout connaît tous les PISA et voit tous les PISA de tous les pays, et Peter Gumbel, que j'aperçois là, qui nous donneront une perspective sur le système français. Ce système paraît de plein de fantasmes pour les Français, mais ce système qui paraît si particulier vu de l'étranger, surtout au regard de ce qui est efficace ailleurs. En clôture, Renaud Guidé, qui ne va pas tarder à arriver, à mon avis, dans un bouteillage, membre du directoire, va conclure cette conférence par une synthèse des débats. Alors, vous êtes nombreux à être venus ce soir. Et il n'est pas question de reproduire ce que nous venons de stigmatiser, qui est le maître devant sa classe cherchant l'erreur. Donc, on a fort à cœur de partager avec vous ce débat. Évidemment, le nombre aidant, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un petit retour en arrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez Cognac G, ici Cognac G. Alors, évidemment, on s'est un peu modernisé, donc on a la version 10.3.5. Et vous allez pouvoir envoyer vos questions par texto. Je suis désolée pour ceux qui sont beaucoup plus avancés technologiquement. On a fait le pari que tout le monde n'était pas Twitter, donc on est resté au texto, n'est-ce pas, monsieur Portier? Ça nous permettra à nous de récupérer toutes les questions et de pouvoir en poser un maximum aux invités. Donc, on a cru un moment qu'on pourrait en plus vous faire défiler les questions à l'écran, et c'est là qu'on voit que la technologie, c'est pas si simple que ça. Et le numéro auquel vous pouvez adresser vos questions, donc je vous suggère de l'enregistrer dans vos téléphones portables, c'est le 06 01 13 31 77. Alors d'aucuns reconnaissent Louise Touré sur l'estrade, qui a accepté de venir animer les débats. Et donc je vais lui laisser l'ouverture du premier plateau.